outside the wall. Some hand in hand, and some gathered together in bands. The bleeding hearts and the artists make their stand. They've given you their all, some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Kiris. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. durant la nuit, il la voit venir. Petit être fragile, il la prend dans ses bras. Elle se laisse faire. Il lui dit, je t'aime mon amour, je t'aime. Toi aussi tu m'aimes. Elle fait bruit la tête, que je suis heureux. Il lui donne un baiser sur la joue. Il la fait asseoir sur une pierre à côté de lui. Il lui demande, tu m'aimes depuis quand? Depuis la première fois que je t'ai vue. Elle prend dans ses bras et lui dit, ils vont toujours ainsi, maintenant, jusqu'à la mort. L'amour est dans nos veines, il peut être soustrait. Le monde n'y peut rien. Il regarde dans le lointain, c'est un champ de bataille. Elle lui dit, est-ce que tu crois que la guerre va toujours durer? Non, une guerre se termine toujours. Qu'allons-nous devenir? Je suis une esclave d'un peuple qui est ennemi du tien. Cela n'a aucun sens pour nous. Après la guerre, nous partirons, habiterons loin, loin. Nous vivrons dans une maison de pêcheurs. Il l'embrasse. Il voit qu'elle a froid. Tu as froid? Tu veux que nous allions dans une chambre? Elle dit oui de la tête. Il y a sur les remparts une petite cabane. Il peut se reposer. Il l'amène. Pour rentrer, il va allumer une lampe à huile. Pièce est sombre, petite. Il y a un lit, une table, une chaise. C'est pas très confortable, mais nous aurons chaud. Il la prend dans ses bras. Elle a confiance en lui. Lui, sans ce petit corps battre contre lui. L'embrasse sur les joues, les lèvres, les mains sur son corps. Je t'aime, ma chérie. Elle se donne, elle a confiance. Lui, excité de plus en plus, la prend dans ses bras et la couche sur le lit. Elle ne dit rien, laisse lui enlever sa robe. Elle n'a rien dessous. Une peau blanche et fine, fine, que l'on voit ses veines, des petits seins minuscules. Lui caresse le corps, elle commence à se sentir drôle. Puis, pris de fougue, il se déshabille et la prend. Malgré sa fougue, le plus tendrement possible. Elle a gémi. Dans ses bras, il a joui. Du sang a coulé entre ses cuisses. Puis, ils ont dormi enlacés. Au petit matin, ils se sont réveillés, se sont souri. Tu es ma femme. Oui, tu es heureuse. Oui, mais j'ai peur de te perdre. Ne crains rien. Je t'aime, mon petit oiseau. Il l'embrasse. Se sont levés et quittés. Fait toujours rage, mais les troupes des envahisseurs sont moins nombreuses. Le roi convoque son fils au palais et lui dit
« Demain, je vais tenter une sortie avec mes hommes. Ils ne s'y attendent pas et sont fatigués des différents assauts qu'ils ont donnés, tandis que mes troupes sont fraîches. »
« Soyez prudent, père. »
« Ne crains rien, mon fils. Je suis un vieux soldat qui connaît le métier. »
Et le lendemain matin, une porte s'est ouverte, laissant le passage à l'armée royale de cavalerie. C'est bien ce que pensait le roi. Les assaillants sont surpris et fatigués de la guerre. Le roi a vite fait de les encercler et de les assembler. Ils ont tout juste le temps de prendre la fuite avec un nombre important de pertes. Le roi a dit à ses soldats, pas de quartier, c'est le corps à corps à cheval, la hache à la main, a été meurtrier.
Ils l'ont tous mérité.
Et nombreux. Il faut que le reste de la troupe ennemie a été suffisamment éloigné. En direction du désert, le roi a arrêté son armée.
Ne leur courons pas après. En allant de l'avant, nous risquons de trouver d'autres ennemis. Mais ne n'êtes pas assez nombreux pour leur faire face. Transformons pas la victoire en défaite. Rentrons. C'est ce qu'ils font. Ils s'en sont retournés. Le roi est retourné à la ville. Pendant ce temps, l'armée des fêtes, avec son roi, se sont arrêtés dans une oasis. Le roi Béor, le père de la princesse Béris, qui est un homme gros, fort, avec des yeux de cochon, réunit ses officiers et leur dit « Ils sont encore trop forts et riches, mais ils n'auront que par la ruse. Il faut qu'un des nôtres entre dans la ville et cherche à avoir des rapports avec les gens de mon peuple qui a été mené comme esclave. Avec leur aide, je dois pouvoir avoir des renseignements et peut-être ouvrir les portes de cette foutue ville. »
Les amoureux se voient tous les jours aux fortifications, puis dans la petite chambre. Ils sont heureux et oublient que c'est la guerre. Elle l'aime comme une enfant, lui fait de petits présents, des fleurs, des gâteaux, des petites statuettes en terre cuite que les enfants ont pour jouer. Lui est ému et amusé. Le temps passe. Et de nouveau, ils sont assiégés. La bataille fait rage. La ville est de nouveau assiégée. Les assiégeants sont plus nombreux.
Le port est complètement bloqué par les marins ennemis. Les vivres ne peuvent plus arriver à la ville. Les vivres commencent à manquer. Au fur et à mesure, les choses se laissent amplifier. Le roi décide ce qu'il est. Pour qu'il y ait moins de gens à nourrir, que l'on tue les esclaves. Les familles qui ont des esclaves les donnent à l'armée pour qu'ils les égorgent. Tyrys a tout fait pour que le roi ne prenne pas cette décision. Il a peur pour Béris. Il court chez sa fiancée, qui mange des dattes. Il s'est assis à côté d'elle. Il lui demande « Tu vas suivre la loi que le roi a décrétée au sujet des esclaves ?»«
Oui, je trouve cette loi juste et pleine de sagesse. »«
Tu vas donner tes esclaves ?»«
Bien sûr. » »«
Et même Béris ?»
Elle comme les autres.
Je ne souhaite pas que tu le fasses.
Et pourquoi?
Parce que ce n'est qu'une enfant.
Peut-être bien, mais ce n'est qu'une esclave.
Ne sois pas cruel.
Je ne le suis pas. Je fais qu'exécuter les ordres du roi.
Ton fils te demande de l'épargner.
Et pourquoi?
Pour sa jeunesse et notre amour. Je ne pourrais pas me marier avec une femme qui n'aurait pas de corps.
Bien. Je la garderai, mais si on la prend, je dirai que c'est toi qui me l'as dit.
Elle a cédé car elle souhaite à tout prix être reine. Elle se dit qu'une fois reine, l'on verra. Mais cette demande lui a mis la puce à l'oreille. Elle est devenue soupçonneuse et jalouse de l'esclave. Les jours passent, le siège continue, la famine commence à faire des ravages. L'on meurt de faim dans le peuple, l'on mange des rats après avoir mangé les chats. Les deux amoureux continuent à se voir, toujours aussi fous l'un de l'autre et aussi aveugles. Ils ne voient pas qu'ils sont épiés, espionnés par un serviteur de la princesse. Elle sait, mais ne dit rien et tient trop à son mariage. Le roi se rend compte de rien. Il est vrai qu'il est très pris par la guerre. Il se dit qu'en rien peut amener la défaite.
Adieu la ville, la plus puissante du monde. Ville qui sera détruite, engloutie et à jamais oubliée par les hommes.
Le prince est toujours fou d'amour, mais il a peur pour sa bien-aimée. On recherche toujours les esclaves pour les tuer. Il a peur qu'un soldat la prenne et la raccompagne chez elle. La raccompagnant chez elle, il lui dit de rester au palais, de sortir le moins possible. Une nuit, alors qu'elle se rend aux fortifications pour voir son bien-aimé, elle est appelée dans le noir par un homme. Il s'approche d'elle. C'est un petit homme maigre et chauve, habillé comme un paysan, et surprise de reconnaître un domestique de son père. Il ne pensait plus à tout ça, il était loin de son peuple, de la guerre.
Vous me reconnaissez ?
Elle fait vouer de la tête.
Je suis venu de la part de votre père. Il faut que vous nous aidiez. Le siège a duré depuis trop longtemps. Au Vous devez nous aider à rentrer dans la ville et à libérer notre peuple qui a été pris en esclave, comme vous.
Je ne peux rien faire, on nous surveille. Je ne connais personne.
Vous le devez, c'est un devoir. Pour être... pour votre peuple. Et c'est un ordre de votre père.
L'homme disparaît. Elle est paniquée. Tout en autour d'elle, la réalité l'a rattrapée. Elle court vers son bien-aimé. Mais il n'est pas là. Pris par une instant service. Elle reste sur les fortifications et la tête en feu. Elle réfléchit. Mon Dieu, aidez-moi. Que dois-je faire? Trahir celui que j'aime, mon pays et mon père? Je me refuse de trahir celui que j'aime. Dilemme horrible, je dois trahir l'un des deux que j'aime le plus au monde. J'aimerais m'enfuir avec mon bébé-mé, loin de cette guerre. Pardonnez-moi, père, mais je ne peux vous obéir. Je l'aime trop. Et elle fond en larmes. Elle retourne au palais, et là, dans sa chambre, elle retrouve sa maîtresse, debout, au milieu de la pièce.
Je ne te demande pas d'où tu viens, je le sais. Ne cherche pas à mentir. Je tiens à te dire une chose, ma pauvre petite. C'est pour ton bien que je te le dis. Le prince et moi avons décidé de nous marier. Il m'aime, et oui, c'est moi qui m'aime. Et pas toi.
C'est faux.
Petite idiote. Il se joue de toi pour t'avoir dans son lit. Tu es une distraction de jeune homme. C'est tout. Comme une prostituée. Fier d'avoir une prostituée comme esclave. Mais qui est princesse? Qu'est-ce que tu crois? Qu'un prince peut aimer une esclave, même si elle était princesse avant?
Vous mentez,
parce que vous êtes jalouse de moi. Moi, jalouse de toi? Mais ça ne va pas, ma petite, être jalouse de rien, car tu n'es rien. Je peux te faire tuer quand cela me plaît. J'ai pitié de toi. Je te dis de te méfier du prince et de ne pas croire à ses paroles. Il te ment pour te séduire. C'est moi qui l'aime. Vous mentez. Tu veux la preuve? Tu l'auras.
Le lendemain matin, elle cache derrière un rideau la jeune fille. Puis, elle attend et reçoit le prince. Elle s'est allongée devant le rideau et derrière le rideau se trouve la jeune fille. Le prince s'approche d'elle, s'incline et s'assoit à ses côtés. Elle lui dit « Ton père est d'accord pour que nous nous marions avant la fin du mois, malgré la guerre. »
« Oui, il comprend notre impatience. » Elle l'embrasse sur la joue.
Elle lui dit « Je suis heureuse si tu savais, mais il faudra me promettre une chose, mon chéri. » Finis les fraudaines avec les esclaves ou autres.
Je te le promets, c'est toi que j'aime.
J'en suis très heureuse.
Il se lève
et dit, je dois reprendre mon poste, pardonnez-moi.
Et il sort.
Une fois sortie, elle va derrière le rideau. Périsse est blanche et semble défaillir. Elle lui dit,
tu as compris,
Dieu amour.
Pourquoi a-t-il fait cela? C'est pour éviter les soupçons de son père et éviter qu'elle ait des ennuis.
Avant de faire l'amour, elle lui donne à boire du vin.
le vin, il y a une poudre pour dormir. Après l'amour, il s'est endormi profondément. Elle lui prend les clés de la ville et se sauve. Sans être vue des gardes, elle a ouvert une porte et sur la plage, avec un châle blanc, elle a fait un signe à l'ennemi, c'est-à-dire aux soldats de son peuple. Puis, elle s'est sauvée. Les gardes ont été surpris et poignardés. L'ennemi met le feu. La ville s'éveille. Cris, surprise, les soldats ennemis tuent à leur passage à coups d'épée, de haches. Les deux armées se battent corps à corps au milieu de la ville. On entre dans les maisons, l'on pile, viole, brûle, tire. Le palais est en flammes, tout est en feu, à sang, des cris, des hurlements, des coups de feu. Les façades s'effondrent. Le roi s'est trouvé seul dans le palais alors qu'il brûlait. Il a été déserté par les occupants. Le roi n'a pas pu fuir à temps, arrêté par le feu qui barrait le passage. Il est mort, le toit lui est tombé dessus. Elle est retournée vers lui. Dès les premiers cris, il s'est réveillé, levé et veut sortir pour se battre. Elle lui dit, « Non, que veux-tu faire? C'est fini. La ville est perdue. Ne cherche pas la mort. Partons comme tu me l'as dit. Je t'en supplie. Fuyons et vivons ensemble. » Oui, tu as raison. Fuyons. Je connais une petite porte qui donne sur la plage. Ils sont dehors, sur des coffres, cris, hurlements. Ils arrivent à se faufiler.
L'heure a sonné, Judas. C'est le moment de régler nos comptes. Tu as raison. L'heure a sonné.
Se réussit à se faufiler, à gagner la plage par une petite porte. C'est un coin de plage déserte, car les bateaux ne peuvent être amarrés. Ils voient de loin la ville en feu et les cris de la guerre. Il lui dit, pêcheur a amarré une barque ici pour qu'elle ne soit pas prise. Nous allons la prendre. Descend en bas, cherche vers la mer. Elle le suit. Ils arrivent sur un bond de plage, voient une barque attachée à un piquet. Il va et se penche. Elle est derrière lui. Lève un poignard. Il lui en donne un coup. Et tombe sur la plage. Elle le retourne. Il a les yeux fixes. Pour t'avoir joué de moi. Je t'ai protégé et je ne voulais pas que tu ailles te battre. Pour que ce soit moi qui te donne la mort. Elle a les larmes aux yeux. le couche sur lui et l'embrasse. J'ai toujours aimé, tu sais, et je t'aime encore. Tu seras toujours mon amour. Pourquoi t'es-tu joué de moi? Pourquoi? Elle pleure sur lui, se soulève, arrache ce poignard de son corps et des deux mains se donne un coup au corps. Elle tombe sur lui.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Kiris, dont c'était la deuxième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre,